Chapitre 24. Genèse de Lev Levovitch. Trente-cinq ans plus tôt, à Genève.
Lev ! Lev !
En entendant son prénom, le petit garçon qui sortait de l'école se retourna et vit sa mère. Il se précipita dans ses bras.
« Comment va mon petit prince ?»
lui demanda-t-elle.
« Je vais bien, maman, » répondit-il en se serrant contre elle.
Tous les jours, sa mère le conduisait à l'école le matin et venait l'y rechercher l'après-midi. De ses journées, ses deux trajets quotidiens à pied avec sa mère étaient les moments qu'il préférait. Il marchait main dans la main. Leur appartement, situé au 55 route de Florissant, ne se trouvait qu'à quelques minutes à pied. Ils traversaient le parc Bertrand, en remontant la grande allée bordée d'arbres centenaires, et ils y étaient. Arrivés dans leur petit appartement du sixième étage, Dora, la mère de Lev, mettait du lait à chauffer, puis, s'emparant d'un petit pain brioché, elle le coupait en deux, le beurrait généreusement et y ajoutait une ligne de carré de chocolat. Pour Lev, le pain et le chocolat resteraient pour toujours associés aux souvenirs de sa mère. Dora travaillait au consulat d'Italie à Genève, situé dans la rue Charles-Galland. 10 ans plus tôt, alors célibataire, elle habitait le quartier des Eaux-Vives. Elle se rendait à pied au travail toute l'année et s'arrêtait en route au Café Léo, sur le carrefour de Rives, pour boire un cappuccino et manger un croissant aux amandes. C'est ainsi qu'elle avait rencontré Sol Levovitch, qui y travaillait comme serveur et qui était devenu son mari et le père de Lev. Quand on lui demandait ce qu'il faisait comme métier, Sol Levovitch répondait qu'il était comédien et cherchait à percer comme humoriste. En attendant, il avait trouvé au Café Léo un emploi qui lui servait de gagne-pain et lui avait permis de rencontrer Dora. 10 ans plus tôt, Dora avait succombé rapidement au charme de ce jeune serveur cultivé et à l'humour subtil. Le matin, au café, il la faisait tellement rire qu'elle devait lui demander de faire des pauses pour qu'elle puisse boire son cappuccino sans s'étouffer.
« L'homme qui sait vous faire rire, sait vous faire vivre, car il n'est pas de plus beau sentiment », lui avait dit un matin Sol.
« Et pourquoi ?» s'était-elle amusée.
« Parce que le rire est plus fort que tout, plus fort même que l'amour et les passions. Le rire constitue une forme de perfection inaltérable. On ne le regrette jamais, on le vit toujours pleinement. Lorsqu'il se termine, on est toujours satisfait, on en voudrait encore, mais sans en réclamer davantage. Même le souvenir du rire est toujours agréable. »
Ils étaient rapidement devenus un couple. Dora savait que sa vie avec Sol lui plairait. Il ne roulerait jamais sur l'or, mais il serait heureux. Elle rit avec lui du matin au soir. L'après-midi, son service au Café Léo terminé, il travaillait d'arrache-pied à ses spectacles, perfectionnait ses textes, ses mimiques, ses grimages. Les personnages absurdes et burlesques qu'il mettait en scène étaient d'un comique irrésistible. Le soir et les week-ends, il écumait les cabarets de la région, ce qui lui valut une petite renommée, mais sans rapporter beaucoup d'argent. Lorsqu'il déambulait en amoureux dans la très chic rue du Rhône, devant les vitrines des maisons de couture parisiennes, Sol promettait à Dora « Un jour, j'aurai beaucoup de succès et je t'offrirai tout ça. »
« Je m'en fiche, » assurait Dora. « On ne remplit pas une vie avec des bouts de tissu ?»«
Mais ça, ce sont des beaux bouts de tissu !»
s'écriait alors Sol en prenant la voix éraillée d'un de ses personnages qui la faisait aussitôt éclater de rire. Puis naquit Lev, leur fils unique. Quelques années passèrent. Les soucis quotidiens et les factures impayées s'accumulèrent peu à peu. Sol était de plus en plus préoccupé par ces spectacles qui marchaient de moins en moins bien, parce qu'ils ne se renouvelaient pas, que le public avait une désagréable impression de déjà-vu. Il convainquit Dora d'investir les quelques économies du ménage dans une petite tournée en France qui devait faire décoller sa carrière, mais qui s'avéra être un bide total. Dora avait de moins en moins envie de rire. Chaque fois qu'elle voulait aborder un sujet sérieux qui les concernait, Sol répondait par une boutade. Lev vécut une enfance heureuse jusqu'à ses 11 ans, car ses parents lui épargnèrent les disputes. Lorsqu'en fin de journée, la tension montait dans la petite cuisine, Dora et Sol, qui ne voulaient pas régler leur compte devant leur fils, disaient
« Papa et maman vont au restaurant !»
Ils s'en allaient, confiant Lev à leur gentille voisine de palier, et ils allaient au parc Bertrand se faire des reproches pendant des heures. D'abord, ils n'allèrent pas beaucoup au restaurant, puis plus souvent, puis ils y allèrent presque tous les soirs. Et tandis que Lev imaginait ses parents amoureux dans un grand restaurant,
comme dans les films américains que la gentille voisine le laissait regarder, dans l'obscurité du parc, Dora et Sol se disputèrent à n'en plus finir.
« Il est peut-être temps d'arrêter ta carrière d'acteur, au moins un petit moment, » disait Dora, « et de consacrer plus de temps à travailler, à ramener un peu d'argent à la maison.
« Cette carrière, c'est ma vie !»
protestait Sol.
« Non, Sol, ta vie, c'est ta femme et ton fils, pas t'enfermer des week-ends entiers à répéter des rôles que tu joues ensuite dans des salles vides louées à nos frais. Sans compter tout ce que tu dépenses pour tes costumes, ton maquillage et compagnie.
« Mais c'est mon rêve !»
s'écriait-il.
« Eh ben, nous n'avons plus les moyens pour tes rêves !»«
Une vie sans rêve, c'est pas une vie. »«
En tout cas, moi, je ne veux plus de cette vie, Sol !» prévenait Dora. Une vie à courir derrière les factures à payer, à ne jamais partir en vacances, à se serrer la ceinture. Je veux vivre. Je veux exister.
Oh, madame a des envies désormais, se moquait Sol. Ah, qu'il est loin le bon temps où tu vivais d'amour et d'eau fraîche.
Tu sais quel est ton problème, Sol? Tu aimes tes personnages comiques plus que moi. Plus que toi-même. Tu oublies la réalité.
Parce qu'il lui avait épargné leur dispute, les parents de Lev ne purent lui épargner une totale incompréhension lorsqu'ils se séparèrent. Ses parents, amoureux comme dans les films, qui passaient leur temps au restaurant, et puis qui, du jour au lendemain, se déchiraient, c'est Dora qui partit, laissant Lev avec son papa. Elle avait besoin de prendre l'air, de se retrouver. Elle demanda un congé à son employeur et partit en voyage à travers l'Italie.
« Je reviendrai te chercher, » promit-elle à Lev. Je reviendrai te chercher à l'école comme avant. Maman a juste besoin d'un peu de temps pour elle. »
À l'école, la maîtresse et les autres parents décrétèrent que c'était très inhabituel que la maman s'en aille et laisse son enfant avec le papa. En général, c'est le papa qui rencontre une autre femme, marmonnait-on dans les conciliabules des mamans qui regardaient Sol à la dérobée tandis qu'il attendait son fils à la sortie de la classe. Quand l'enfant sortait, son père lui tendait un petit sac de la boulangerie de l'avenue Alfred Bertrand.
Qu'est-ce que c'est ?
Demandait le garçon. « Un pain au chocolat ?»«
Non, maman, elle met du pain avec du chocolat dedans. »«
Bah, c'est un pain au chocolat, c'est pareil. »«
Non, maman, elle fait un pain avec du chocolat, pas un pain au chocolat, c'est pas pareil. »
disait Lève en mordant néanmoins dans la viennoiserie. Et il répétait à chaque bouchée.
« Avec maman, c'est différent. C'est meilleur quand elle le prépare, elle. »«
Bientôt, ce sera de nouveau maman qui te préparera ton goûter, comme tu l'aimes. »
Elle revient quand, maman?
Bientôt. Mais Dora ne revint jamais chercher Lev à la sortie de l'école Bertrand. Elle pensait partir pour quelques semaines seulement. C'était une aventure dont elle avait besoin. Avec un banquier d'affaires milanais rencontré un jour au consulat et qui l'emmena faire un tour de la Toscane. Les deux premières semaines, elle se sentit terriblement coupable et seule sans Lev. Puis le sentiment de liberté finit par dominer. Elle se réveillait le matin dans des hôtels de luxe et prenait son café en contemplant le soleil qui se levait sur l'une des plus belles campagnes du monde. Elle se sentait vivante. Elle avait l'impression de vivre enfin. Elle voulait que ce sentiment dure encore, et le voyage fut prolongé par un tour des Pouilles, puis de la Sicile. Elle voulait tant voir l'Etna. Le banquier, pour éblouir Dora, loua un hélicoptère. Mais l'engin termina sa course au fond de la Méditerranée. La marine italienne ressortit trois cadavres, ceux du pilote, du banquier et de Dora. À l'annulaire de Dora, on retrouva sa bague de fiançailles offerte par son mari Sol, qu'un gardait au doigt, comme si tout n'était pas terminé. Sol confia la bague à son fils. Ce fut le seul souvenir de sa mère qu'il conserva. Lorsque Lev eut 14 ans, son père décida de donner un nouvel élan à sa carrière de comique en déménageant à Zurich, où ses spectacles ne connurent pas davantage de succès. Puis à Bâle, où Sol dénicha un emploi assez bien payé au bar de l'hôtel Les Trois Rois. Lev termina à Bâle son second cycle d'études secondaires avec 2 années d'avance. En dépit des encouragements de ses professeurs, qui étaient tous subjugués par ses dons, son père le persuada de ne pas perdre son temps à d'inutiles études.
« Les profs disent que je pourrais devenir quelqu'un d'important et gagner beaucoup d'argent », expliqua Lev.
« Mon fils, si l'argent était d'une quelconque utilité, cela se saurait. Les riches sont riches, parce qu'ils sont des voleurs, ne l'oublie jamais. »
« Oui, papa.
Ils nous ont volé ta mère, notre bien le plus précieux. »
« Oui, papa.
Je vais plutôt t'apprendre à être comique. Nous allons monter un beau spectacle ensemble. Maman serait fière de nous. »
Cet été-là, dans l'espoir que son fils devienne le grand comédien qu'il n'avait pas été, Sol enseigna à Lev tout ce qu'il savait de l'art théâtral, de la posture à la diction, à la fabrication de costumes, au maquillage. Mais voilà qu'un soir, alors qu'il assurait le service au bar de l'hôtel Les Trois Rois, Sol Levovitch fit la rencontre de Monsieur Rose, le propriétaire du palace de Verbier, de passage à Bâle pour y régler quelques affaires. Le bar était désert ce soir-là, et Monsieur Rose, d'humeur bavarde, engagea la conversation avec Sol. Au fil de leur discussion, Sol finit immanquablement par lui parler de son métier de comédien. Il en fallut guère davantage pour que Monsieur Rose fût convaincu que Sol était l'homme de la situation. Il lui dit alors « Monsieur Levovitch, vous êtes la perle rare que je cherche depuis longtemps. J'ai un emploi exceptionnel à vous proposer. Seriez-vous prêt à venir vivre à Verbier ?» Le lendemain de sa rencontre avec Monsieur Rose, Sol raconta à Lev qu'une grande opportunité s'offrait à lui. « Je ne peux pas te dire quel sera mon rôle au sein de l'hôtel, et j'ai promis de garder le secret, mais c'est un rôle très important. C'est le rôle de ma vie. »«
Donc ça te plairait d'aller à Verbier ?»
interrogea Lev.
« Beaucoup !»«
Et moi, qu'est-ce que je ferai à Verbier ?» demanda alors Lev. «
Monsieur Rose dit qu'il pourrait t'engager comme bagagiste, et que si tu t'y plais, tu graviras les échelons. J'aurai pas mal de temps libre, toi aussi certainement, et je pourrai continuer à t'apprendre tout ce que je sais. » « Transmission, mon fils, très important la transmission. C'est comme ça que les gens ne meurent jamais vraiment. Quand bien même leur corps peut être rongé par les vers de terre, leur esprit survit au travers de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Tu sais, quand je serai un peu trop usé, tu pourras reprendre mon poste au palace. Et ton fils reprendra ta place ensuite. Tout ce que je peux te dire, c'est que nous serons une grande lignée de comédiens. Nous serons les nouveaux Pitof. »
Lev, sans tout comprendre aux élucubrations de son père, trouva l'idée d'aller vivre à la montagne très bonne. Et c'est ainsi que les Levovitch déménagèrent dans la station valaisanne, où ils furent tous les deux engagés au sein du palace de Verbier. La véritable attribution de Sol au sein du palace fut longuement gardée secrète. Officiellement, il fut engagé pour aider Monsieur Rose à maintenir le standing du palace. Ses tâches ne furent d'abord pas très claires pour les autres employés. Il était tantôt enfermé dans son petit bureau situé dans les coulisses de l'hôtel, tantôt en voyage. Mais suite à une indiscrétion, on découvrit que Sol, dont l'expérience dans l'hôtellerie et la débrouillardise avait plu à Monsieur Rose, était envoyé par ce dernier à travers la Suisse et l'Europe pour visiter des établissements de luxe en se faisant passer pour un client et produire ensuite des rapports sur les innovations et les atouts de la concurrence, ainsi que des idées pour améliorer la qualité de service du palace. Monsieur Rose disait de son nouveau collaborateur qu'il avait l'œil et l'exigence nécessaires. Et Sol, très heureux de la confiance qu'on lui accordait, semblait heureux et épanoui dans ses fonctions. Il était de surcroît très bien payé et s'installa dans un joli petit appartement du centre de Verbier. Lev, lui, était enchanté de sa nouvelle vie à Verbier. Engagé comme bagagiste et groom au sein du palace, il avait découvert les joies de l'indépendance. Tous les employés de son rang avaient droit à une jolie chambrette sous les combles de l'hôtel, et Sol avait accepté que son fils s'y installe. Après tout, son appartement à lui ne se trouvait qu'à quelques minutes à pied et il se voyait constamment à l'hôtel. Lev passait donc l'essentiel de son temps au palace, où il était nourri, logé et blanchi. Malgré cette vie relativement cloisonnée, il éprouvait une sensation de liberté inconnue jusque-là. Les jours ne se ressemblaient pas, il rencontrait un monde fou, sympathisait avec des clients du monde entier, passait son hiver à skier. Il se sentait bien à Verbier. Il y était heureux, comme il ne l'avait plus été depuis l'époque bénie d'avec ses deux parents, route de Florissant. Et puis il y avait Monsieur Rose, qui était particulièrement bon avec lui. Monsieur Rose avait eu un coup de cœur immédiat pour ce jeune homme travailleur, volontaire, élégant, poli, suscitant les éloges unanimes de la clientèle. Il avait découvert de surcroît que le garçon était riche d'un savoir encyclopédique et qu'il parlait un nombre de langues incroyables. Il ne fallut pas longtemps pour que Lev conquière la clientèle régulière de l'hôtel. Tous voulaient être servis par lui. De riches familles, qui venaient passer les étés ou les hivers en villégiature au palace, réclamaient sa présence et sa compagnie. Nombreux furent ceux qui lui proposèrent de l'engager comme secrétaire particulier pour des salaires substantiels, mais il refusa toujours. Monsieur Rose, persuadé que Lev n'avait pas sa place comme employé d'hôtel, essaya de le convaincre d'entreprendre des études. mais Lev refusa.
Tu pourrais faire n'importe quoi comme métier. J'ai des contacts dans de nombreuses universités.
Je ne veux pas laisser mon père tout seul ici, expliqua Lev.
Tu reviendras le voir.
Les gens qui promettent de revenir ne reviennent jamais, monsieur Rose. Ils ne seraient pas partis s'ils avaient eu l'intention de revenir.
La vie parfois est plus compliquée qu'elle n'en a l'air, mon garçon. Tu pourrais faire une carrière extraordinaire.
À quoi ça sert une carrière ? Interrogea Lev, narquois. À être riche. Les riches sont des voleurs. Ils m'ont volé ma mère.
À être épanoui, je pense,
répondit monsieur Rose, un peu embarrassé. Je suis très épanoui en portant des valises et en rendant service aux clients, indiqua Lev.
Tu pourrais devenir un homme important.
L'importance n'est pas tangible. C'est un rapport aux autres, pas à soi-même.
Arrête de philosopher un instant, s'il te plaît, Lev. Tu n'as qu'une vie. Tu ne vas pas la passer à porter des valises, enfin. Il te faut une formation.
J'ai une formation de comédien. Mon père m'enseigne tout ce qu'il sait.
Écoute, Lev, si ton père était un grand acteur, il serait à la Comédie Française, pas au Palace de Verbier.
Ne soyez pas désobligeant, monsieur Rose. Mon père vous apprécie beaucoup.
Et c'est réciproque, mais je m'inquiète pour ton avenir. J'aurais presque envie de te mettre à la porte uniquement pour te forcer à tracer ton chemin.
Pourquoi voulez-vous me licencier? Je travaille dur, les clients m'apprécient.
Écoute, mon garçon, voilà ce que je te propose. Je te garde au sein de l'hôtel et je t'enseigne tout ce que je sais.
Tout ce que vous savez sur quoi ? Demanda Lev.
Sur la direction d'hôtel.
Ça pourrait toujours te servir. Lev accepta, pas seulement pour garder son emploi au palace, mais parce qu'il savait que cela pourrait lui servir. Et comme lui disait sa mère, on ne peut jamais apprendre trop. C'est ainsi que pendant les années qui suivirent, dans le plus grand secret pour ne pas susciter la jalousie des autres employés, Monsieur Rose apprit à Lev les bonnes manières et la bienséance et lui inculqua l'art du raffinement, du bon goût, de l'élégance, du vin, de la nourriture. Monsieur Rose ne s'était jamais marié et n'avait jamais eu d'enfant, mais s'il avait eu un fils, il aurait aimé qu'il soit comme Lev. Il arriverait un jour où il n'aurait plus l'énergie pour diriger cet établissement et il considérerait que Lev ferait un formidable remplaçant. « Sait-on jamais ? » dit-il à Lev, avec une fierté presque paternelle un soir qu'il dégustait des grands crus à l'aveugle. « Tu pourrais diriger cet hôtel un jour. Tu en ferais certainement le palace le plus prisé d'Europe. » Lev s'imagina un instant à la tête de cet établissement. L'idée lui plut. Il aimait cet endroit. Chaque semaine, Lev passait de longues heures dans l'appartement de son père. Celui-ci ouvrait au milieu de son salon une imposante malle dans laquelle il gardait tout le matériel de ses spectacles passés. Certains costumes, attaqués par les mythes et le temps, nécessitaient d'être repris. Les deux hommes s'adonnaient à ces travaux de couture ensemble.
« La comédie ne te manque pas trop ?» demanda un jour Lev.
« La vie est une grande comédie, » répondit Sol. « Un jour, j'y reviendrai. »
Il désigna de la tête un grand livre relié en cuir posé sur une table et poursuivit.
« J'ai pas mal de personnages en tête. Je note tout dans ce livre pour ne rien oublier. »«
Je peux le regarder ?» demanda Lev.
« Une autre fois, » déclina le père.
« Alors c'est pour un spectacle que tu gardes toutes ces vieilleries ?»«
Non, c'est pour te les donner un jour. »
Et que veux-tu que j'en fasse?
Tu le donneras à tes enfants.
Et qu'en feront-ils?
Ils les donneront à leurs enfants.
Et alors? Interrogea Lev.
Alors, ils se souviendront de moi.
Les Levovitch étaient heureux au palace. Et depuis leur arrivée, de l'avis des autres employés, quelque chose avait changé. Monsieur Rose avait soudain des yeux partout. Il remarquait désormais le moindre manquement de ses employés. Cela ne pouvait pas être de la délation de la part des deux nouveaux employés, puisque certains faits avaient eu lieu en chambre et d'autres, notamment au bar, à la piscine ou au restaurant, en l'absence des Levovitch. Pendant des années, le mystère resta entier.